Le XXe siècle désigne le nom d'un problème en art. Houellebecq écrivait autrefois qu'à part la science-fiction, il n'y avait rien à sauver dans sa littérature. Siècle nul qui n'a rien inventé, avec cela pompeux à l'extrême. C'est pour les peintres une position encore plus tentante. Picasso, le plus grand peintre du XXe siècle, a fait à peu près n'importe quoi, génialement bien sûr, mais avec une rage étonnamment nihiliste et en se comportant comme s'il était le dernier peintre, le dernier interprète de Titien et Velasquez. J'ai largement souscrit d'ailleurs en lisant l'éloge de l'infini de Solaire, à l'héroïsation de Picasso. Picasso comme unique personnification paradoxale du XXe siècle, ce siècle de la défiguration. J'avais justement lu, adolescent, le livre de Dora Valier sur l'épopée de l'abstraction et toute cette théologie moderniste, mais encore trop familière pour que je cède vraiment à ces tentations réactionnaires. J'ai cependant le XXe siècle fragile. C'est ce que je me suis dit en traversant en accéléré les deux expositions actuelles du Centre Pompidou, celle sur Vasarely et celle sur le cubisme. Le siècle fermement tenu par ses deux bouts. Je manquais peut-être de la confiance que cette configuration appelait, la confiance d'un artilleur qui tiendrait une mitrailleuse par ses deux poignets et qui s'apprêtait à effectuer sur Paris un raid dévastateur depuis les hauteurs avant-gardistes de Montmartre et Montparnasse. J'ai bien aimé Vasarely avec toutes les précautions requises, avec les lunettes de sécurité d'un goût certain pour la standardisation auquel se mêlait un peu de nostalgie d'enfance. Ces bulles en aplats et en anamorphose me ramèneront toujours à ce panneau d'information municipale à l'entrée de Laval, une touche pompidou dans la ville du douanier Rousseau. Mes pièces préférées furent cependant, je l'avoue, le grand logo Renault rétro-éclairé et les couvertures de la collection Tell. Si on me demandait de donner une définition du structuralisme, je dirais que c'est cela, précisément, une théorie compatible avec ce genre de couverture. Un cauchemar de la raison, le degré le plus haut de fatalisme qu'on ait pu concevoir en France, l'hérésie terminale de la réforme janséniste, les rêveries d'un drogué devant une lampe à lave qui se poserait sans fin la seule question qui vaille. Sommes-nous vraiment des individus libres ou flottons-nous indistincts dans cette grande masse rougeâtre et placentaire? Vasarely, ce n'est néanmoins jamais désagréable, c'est comme une visite chez l'ophtalmo, ça gratte un peu la rétine, mais ça ne fait pas mal. Picasso, c'est moins sûr. Il y a chez lui quelque chose du dentiste, une obsession pour les mâchoires, pour les larmes, une façon d'appuyer où ça fait mal. J'avais ainsi basculé dans l'expo sur le cubisme. Logiquement, on avait mis des Cézanne dans la première salle, et ça ressemblait précisément à ça, le cubisme. Chacun des coups de pinceau du maître provençal traité avec le sérieux que mettrait un dentiste à traiter une carie. Devant une sainte victoire, je me suis presque mis à entendre, à ressentir la vibration de la roulette. Toutes les toiles à venir étaient compactées là. Le cubisme avait seulement écarté encore un peu plus ses maisonnettes peintes d'un seul coup de brosse. Il avait fait subir un détartrage à Cézanne. Mais la plaque dentaire ne s'en était reformée que plus vite. Je suis entré dans une salle pleine de guitares et de journaux marrons comme je serais entré dans une bouche sale. J'ai fini, ce n'est jamais bon signe, par contempler à la fenêtre les chaises en tôle bleue du quartier de l'horloge. Je me suis alors souvenu qu'il y avait là-dessous un Leroy Merlin. Il fallait justement que j'achète un nouveau panier à linge sale. C'était l'occasion idéale. Rien ne me déprime plus pourtant que les magasins de bricolage, sauf justement les tableaux de Rohan Gris et de Braque. Je me suis même dit à un moment qu'on ferait mieux de mettre le Leroy Merlin sur les grands plateaux de Beaubourg et le centre Pompidou dans ses sous-sols dont l'architecture déboîtée avait quelque chose de proprement cubique. J'avais ce matin-là l'esprit mauvais d'un pamphlétaire. J'ai heureusement croisé, boulevard de Sébastopol, une sorte de dandy barbu qui tenait à la main un livre en carton gris dans lequel j'ai cru reconnaître les archives secrètes du situationnisme. Le front était loin, mais des balles perdues pouvaient encore m'atteindre. Le XXe siècle, comme un jeu de pistes labyrinthique et merveilleux, s'est soudain réouvert et j'ai compris que nous n'en aurions jamais complètement fini avec ces avant-gardes.